recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
50, 100, 1000 chameaux parfois constituaient l'effectif d'une caravane. Car les marchands se groupaient pour additionner leurs forces contre les attaques possibles des pillards. Les lourds ballots de soie, les charges légères, mais combien précieuses de bijoux, d'encens, d'épices allaient chez les barbares.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En annonçant dès son accession au pouvoir suprême en 2013 le projet grandiose de tracer de nouvelles routes de la soie, le nouveau maître de la Chine, Xi Jinping, a choisi d'enraciner dans la longue durée l'ambition qu'il affichait ainsi à la face du monde. Il a voulu mêler tous les prestiges du rêve à un dessein très concret, à savoir une expansion commerciale destinée à appuyer une puissance planétaire. Évoquer la route de la soie au long de plus de 2000 ans, c'est en effet exalter à coup sûr l'imagination. C'est faire surgir une foule d'images disparates et coruscantes. Depuis le mystère des échanges entre l'Empire romain et l'Empire des Han, jusqu'à la croisière jaune lancée par André Citroën au début des années 1930, de Beyrouth à Pékin, tout en passant par la gloire de Samarcande et de la Sogdiane au cœur du premier millénaire et celle de Marco Polo à la fin du XIIIe siècle, au temps du pouvoir des Mongols. C'est restituer l'alternance au gré des guerres, des époques de circulation intense et des périodes de repli des peuples sur eux-mêmes. C'est considérer les liens qui se tissent toujours intimement entre l'économie, la guerre, la politique et les religions. C'est restituer enfin à l'Asie centrale, qui fut longtemps la mal-aimée de l'archéologie et qui ne l'est plus, une importance qui fut en l'occurrence essentielle. Franz Grenet, mon interlocuteur ce matin, est précisément titulaire au Collège de France de la chaire intitulée « Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique ». Nous ne pouvions, en vérité, trouver meilleur guide pour cheminer sur ces routes de la soie, éprouvantes, inquiétantes, fascinantes.
La partie chinoise, on dit le point de départ, c'est Xi'an. C'était la capitale chinoise pendant plusieurs millénaires. C'est un peu cet endroit qu'on a trouvé de grandes fouilles de 6000 guerriers. Parce que déjà, trois siècles avant notre ère, c'était déjà la capitale chinoise dans sa région. Quand on quitte Xi'an, on va vers l'ouest, on longe le Grand Muraille, plus de 1000 kilomètres, on arrive à la dernière passe de la Grande Muraille, à la sortie de Chine. C'est-à-dire cette dernière porte de Grand Muraille. Et on peut dire que c'est là que commence la vraie route de la soie. Pour nous, les Chinois, comme pour vous, on rêve tout le temps cette route de la soie parce que c'est ailleurs. C'est la richesse d'ailleurs. Naturellement, même dans le temps ancien, import-export, ça représente toujours des objets rares, précieux. Et les Chinois rêvent autant que vous, cette route de la soie.
Franz Grenet, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Rini Tang du Musée de l'Homme. C'était un extrait de l'émission Nuit magnétique de Laure Adler et Jean-Pierre Milovanov le 26 décembre 1985 sur France Culture. Je l'ai choisi parce que d'emblée, nous voyons que le rêve n'est pas propre uniquement à l'Occident, qu'il est aussi le fait des Chinois eux-mêmes à propos de cette route de la soie dont nous allons parler ce matin.
Tout à fait, et il importe de souligner que la nouvelle initiative du gouvernement chinois One Belt, One Road est évidemment principalement une initiative géopolitique, une initiative commerciale.
One belt, ça veut dire une ceinture et une route.
Voilà. Apparemment, la route, c'est terrestre et the belt, c'est maritime. Mais le passé est toujours présent dans cette initiative. Il est en effet question de construire auprès de Pékin un village virtuel de la route de la soie où les principaux sites artistiques seront reproduits à l'échelle 1,5 apparemment, avec des reproductions digitales des principales peintures murales qui décorent ces sites. On est très exactement dans une très ancienne tradition chinoise qui est la réappropriation des paysages étrangers au cœur de la capitale. C'est la tradition des grands parcs impériaux chinois où étaient reproduits les paysages de la Chine du Sud et de pays étrangers. Oui. Et ça continue.
En somme, c'est à la fois un musée et un symbole.
Exactement, une proclamation.
Vous trouviez, Franz Grenet, vous trouviez précisément à Pékin en mai dernier, en mai 2017, lorsque le président Xi Jinping a réuni toute une série de dirigeants du monde entier pour marquer le progrès de son projet des nouvelles routes de la soie.
Du monde entier, c'est un peu simplifier les choses, car tous les partenaires pressentis de cette initiative n'ont pas manifesté le même degré d'enthousiasme. Les Indiens, les Népalais se tiennent en dehors, les Russes freinent un peu. On voit très bien que les desseins géopolitiques qui sont à l'arrière de cette initiative sont parfaitement compris.
Il faut dire que le projet est titanesque puisqu'il concerne 78 pays, c'est-à-dire 4,5 milliards d'habitants, 40% du PIB mondial, on a calculé ça. Et naturellement, il y a des réticences.
Et les infrastructures qu'il est prévu de construire sont en train, effectivement, dans certains endroits, de sortir de terre. J'étais au Tadjikistan il y a 2 ans et j'ai vu la construction de la grande route Est-Ouest. Et j'ai pu constater que sur les routes travaillaient non seulement des ingénieurs chinois, mais également des ouvriers chinois.
Il y a à la fois donc des routes, il y a des projets également ferroviaires. On a déjà lancé un convoi qui est allé de Pékin à Londres en 15 jours par la voie terrestre.
Tout à fait.
Plus les ports, alors par la voie maritime, par exemple l'achat du Pirée, qui est tout à fait symbolique par les Chinois.
Mais bien entendu, il y aura des retombées, on peut espérer qu'il y aura des retombées scientifiques. Nous ne devons pas sous-estimer l'effort que les autorités chinoises sont prêtes à consentir au développement des recherches archéologiques sur la route de la soie, quitte, je crois le savoir, à aider aussi des missions archéologiques qui ne sont pas que chinoises.
Là, c'est le professeur au Collège de France qui s'exprime, et en somme, nous avons un rendez-vous pendant 50 ans pour savoir si nous serons encore mieux informés pour traiter du sujet qui est le nôtre.
Nous le serons certainement.
Ce matin. Peut-être doit-on commencer en rappelant que l'expression « route de la soie » est assez récente, elle remonte à 1877.
Elle a été lancée par le géographe allemand von Richthofen, et dans une perspective d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler la perspective actuelle de l'initiative chinoise, car ce que von Richthofen publie sous le titre de « Route de la soie », c'est en réalité un projet ferroviaire allemand qui était dans les cartons. Il a tout simplement recherché les itinéraires anciens et en plus avec sa science de géographe qui était extrêmement en pointe pour l'époque, pour proposer une ligne ferroviaire allant de l'Europe à la mer de Chine. C'était dans la foulée de ces grandes initiatives ferroviaires qui ont donné, par exemple, le Byzance-Bagdad-Bassora. Il y avait une visée commerciale derrière cette idée.
C'est le temps de l'Orient Express et de la Madone des Sleepings du cher Maurice de Cobra.
Exactement. Alors, la ligne ferroviaire ne s'est jamais construite. Elle est en train de se construire apparemment aujourd'hui, à 1,5 siècle de distance. Il faut bien insister sur le fait que cette dénomination « route de la soie » a été très rapidement a pris un caractère emblématique, y compris chez les spécialistes du domaine, mais elle est à certains égards un peu trompeuse.
Alors pourquoi ?
La première raison, c'est que la soie, en réalité, n'a jamais été pour les Chinois une marchandise commerciale.
C'est une monnaie.
C'était la vraie monnaie chinoise, les fonctionnaires étaient payés en rouleaux de soie, et c'était le moyen d'acheter les peuples nomades qui étaient susceptibles de menacer la Chine. Par ailleurs, il n'y a jamais eu une seule route et elle a très rarement, très peu de voyageurs et d'ambassadeurs l'ont parcouru de bout en bout. C'était plutôt des tronçons enchaînés. Et enfin, autre réserve qu'on peut émettre, c'est que, et personnellement je dois dire, j'essaie au maximum dans mes travaux d'éviter ce terme de route de la soie.
Alors je vous ai quand même invité, pardonnez-moi.
Et je vous en suis très reconnaissant. Mais quand nous consultons les documents de la pratique, c'est-à-dire par exemple les registres douaniers, les lettres que ces marchands d'Asie centrale ont laissées, nous constatons que la soie est très rarement mentionnée. Le gros de leur commerce était fondé sur d'autres types de marchandises, certes également peu pondéreuses et très précieuses, ce qui est le propre du commerce à longue distance. C'était de la vaisselle métallique précieuse, c'était le musc, c'était le santal. La soie est plutôt l'objet, je dirais, de transactions étatiques. Donc, voilà, la route de la soie, le terme existe depuis un siècle et demi, nous vivons avec, mais il faut tout de même relativiser sa portée.
Il reste que dès l'Antiquité romaine, la soie a beaucoup frappé la République et l'Empire. On a des textes d'ailleurs indignés de Sénèque contre l'excès de luxe qu'incarne la soie. Il écrit « Je vois des vêtements de soie, s'il faut appeler vêtements, des tissus dans lesquels il n'y a rien qui puisse protéger le corps, ni seulement la pudeur. Une fois qu'elle les a mis, une femme jurera, sans qu'on puisse la croire, qu'elle n'est pas nue. » Voilà ce qu'avec des frais immenses on fait venir de pays obscurs, c'est la Chine, jusqu'en ce qui touche le commerce, afin que même à leurs amants, nos dames ne montrent pas plus d'elles-mêmes dans leur chambre qu'en public.
Alors derrière la pudibonderie, certainement assez hypocrite, de Sénèque, il y a également un enjeu économique. Et cet enjeu économique est très bien exprimé par son contemporain Pline l'Ancien. Selon l'estimation minimale, ce sont 100 millions de sesterces que l'Inde, les Serres, c'est-à-dire les Chinois, et cette péninsule arabique enlèvent tous les ans à notre empire, tant nous coûtent cher les plaisirs et les femmes. Ces calculs économiques tenait en grande partie du mythe, comme l'a très bien démontré Paul Vane. Il faut tout à fait réviser en baisse l'estimation de cette hémorragie financière qu'aurait coûté à l'Empire romain l'achat du luxe oriental.
Ça nourrissait les déplorations qui étaient un peu convenues sur les temps anciens, tellement plus rigoureux, tellement...
C'était rhétorique, comme les lois somptuaires qu'on édictait, les lois interdisant l'affichage du luxe, qu'on édictait périodiquement. Quand une loi est édictée périodiquement, c'est qu'elle n'est pas appliquée.
Cela témoigne néanmoins qu'il y avait des contacts à ce moment-là entre l'Empire romain, entre la République puis l'Empire romain et l'Empire chinois. Cela a été étudié de différentes façons. C'est ce qu'exprime d'ailleurs de façon aimablement littéraire les aventures d'Alix l'Intrépide quand il se retrouve en Chine. L'Empire chinois, vous l'avez
tout
lu, j'imagine, France,
oui,
France
oui, connaît. Oui. Alors, il faut tenir compte du fait qu'au départ, quand ces contacts se nouent, on sait précisément à partir de quand, c'est la fin du deuxième siècle avant notre ère, c'est une initiative chinoise. Quand Alexandre arrive en Asie centrale et en Inde, il n'a certainement aucune idée de l'existence de la Chine. Bien que, nous le savons maintenant par l'archéologie, la soie commence à s'infiltrer en Asie centrale, mais on ne sait pas d'où elle vient. L'initiative chinoise est au départ une initiative défensive. La Chine est menacée par des barbares qu'elle appelle les Xiongnu, qui sont en fait, c'est le même peuple, c'est un nom différent, une transcription chinoise du nom que chez nous connaissons comme les Huns. Ce sont en gros les mêmes peuples.
Contre lesquels la Grande Muraille a été construite. Et qu'on va acheter par une sorte de tribu.
Alors, plus exactement, les Chinois mettent en action une politique qui, chez eux, est millénaire, et qui est très explicitement formulé, faire agir, utiliser les barbares lointains contre les barbares proches. Ce qui fait que, environ en 130 avant Jésus-Christ, l'empereur envoie un de ses agents, Chang Qian, pour retrouver la trace d'un peuple rival des Huns, dont on sait qu'il était parti vers l'ouest.
Et ça marche ?
Et ça marche. Et on n'avait pas du tout l'idée au départ de ce qu'on allait découvrir. Et Chang Qian s'aperçoit que ces barbares, qu'on appelle les Yue Qi, qui vont édifier un peu plus tard un immense empire qui fera tout à fait le pendant de l'empire romain, l'empire dit Kushan, ces Yue Qi sont bien établis, sont des produits chinois, arrivent encore une fois par des voies très obscures, et à ce moment-là naît l'idée d'établir des relations diplomatiques régulières avec ces gens qu'on pense pouvoir retourner contre les voisins proches. Alors ceci évidemment va de pair avec des initiatives militaires, c'est la première phase d'établissement d'un réseau de colonies qui va aller jusqu'au Pamir, qui ensuite dépérira et puis périodiquement sera renouvelé.
C'est comme les diastoles et les systoles, le cœur.
Exactement.
Depuis deux millénaires, on voit se succéder les périodes d'ouverture et de fermeture. Mais j'observe que dès 81 avant Jésus-Christ, à la cour impériale chinoise, se déroule un débat sur l'opportunité de développer le commerce extérieur.
Voilà.
Et c'est assez actuel, on pourrait presque mettre cet extrait de la dispute sur le sel et le fer dans la bouche de Xi Jinping aujourd'hui. Écoutez, nous grignotons les richesses de nos ennemis en échangeant avec eux une pièce de soie chinoise contre des marchandises qui valent des monceaux d'or. Mules, ânes et chameaux franchissent les passes en longues caravanes. Alezans et chevaux pommelés viennent remplir nos haras. Marmottes, ziblines, renards, blaireaux, couvertures bariolées et tapis chamarrés s'entassent dans nos magasins impériaux. Jade précieux, coraux, cristaux font maintenant partie de nos trésors. Les richesses des pays étrangers affluent chez nous et l'importation de marchandises étrangères nous procure l'abondance, tandis que le peuple ne manque de rien puisque les bénéfices ne s'enfuient pas à l'étranger. Voilà qui sonne assez actuel, non?
Ces retombées commerciales n'étaient pas au départ prévues, ni sans doute même désirées. Nous avons un texte de 25 avant Jésus-Christ par un haut fonctionnaire chinois qui nous explique à propos des ambassades venues de l'Ouest, il n'y a pas de membres de la famille royale ou de nobles parmi ceux qui apportent des présents. Ceux-ci sont tous des marchands et des gens de basse condition. Ils veulent échanger leurs biens et commercer sous le prétexte d'apporter des présents. Donc il y avait des réticences. Le commerce apparaît au départ comme un parasite de la diplomatie. Et c'est peu à peu que la Chine va s'en accommoder.
Il y a d'ailleurs des efforts pour garder le monopole, notamment de la fabrication de la soie. Et c'est la fameuse histoire de la manière dont le principe de la soie et de sa fabrication s'est échappé des frontières de la Chine. Écoutez ce que nous en dit la même Rini Tang que nous citions tout à l'heure. C'est un extrait des Nuits Magnétiques sur France Culture, je le rappelle, le 26 décembre 1985.
Pendant le temps très très ancien, il n'y a que la Chine qui fabrique la soie. Et la Chine garde son secret de fabrication de la soie. Et pendant longtemps, on croyait que c'est une matière végétale. Et petit à petit, il y a le secret qui est livré. Et dans le temps ancien, quand les Chinois passent la frontière de Chine à l'extérieur, ils subissent une fouille minutieuse pour voir si, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti de Chine avec le cocon ou avec le secret. Et on raconte une légende très jolie. On dit que la première personne qui a livré le secret de la roue de la soie, c'est une princesse. Parce que dans le temps ancien, la Chine, pour avoir la paix avec les pays nomades, ils sont toujours des cavaliers redoutables qui font des incursions. Alors, il y a beaucoup de princesses chinoises qui ont cette mission, un peu comme ambassadrice de la paix. Alors, elles sont épousées des rois tartares. Et il y a une jeune princesse, de temps très reculé, l'empereur a donné sa main à un roi tartare. Et le roi tartare lui écrit, « Dans notre pays, tout est bien, mais seulement on n'a pas de soie, on ne sait pas comment fabriquer. Quand tu viendrais, si tu veux être belle, bien habillée, pouvoir, nous avons les couturiers, mais nous n'avons pas de soie. Alors il faut que tu viennes avec la secret de fabrication de la soie. » Alors la princesse, bien sûr, elle est très coquette. Elle réfléchit comment échapper à la fouille des douaniers. Alors, elle a réfléchi et finalement, elle a caché les cocons dans son chignon. Alors, le moment qu'elle passe la frontière, et comme tout le monde, il faut subir un examen minutieux des douaniers. Mais ils ont regardé les valises de princesse, tous les vêtements, tous les sacs. Mais naturellement, personne n'a osé défaire le chignon de la princesse. C'était comme ça, pour la première fois, le secret de la soie était sorti de frontières chinoises.
Une belle histoire, Franz Grenet.
Tout à fait. Alors, il faut préciser deux choses. C'est que dire que cette princesse était mariée à un prince tartare, c'est un peu anachronique. Les tartares n'apparaissent que vers l'époque qu'à l'époque de Gengis Khan.
1000 ans plus tard, pratiquement.
Voilà. Elle est mariée à un prince local d'un royaume qui se situe donc dans le Xinjiang actuel, Khotan, qui est un royaume extrêmement brillant. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a retrouvé dans les ruines d'un temple bouddhique à Khotan, une plaque de bois peinte représentant cet épisode. On voit la princesse et à côté d'elle une servante qui montre du doigt sa chevelure pour attirer l'attention sur les cocons qu'elle a introduits subrepticement.
Alors la période suivante, c'est une période de repli avec la fin de l'Empire romain où on a l'impression que les échanges se tarissent assez largement jusqu'à ce que resurgisse autour de Samarcande le brio notamment de la civilisation des Sogdiens que vous avez d'ailleurs étudié de près, Franz Grenet, dans vos recherches, dans vos fouilles.
Alors en fait, à partir probablement du deuxième siècle de notre ère, s'opère une captation de ce grand commerce. Auparavant, les itinéraires passait plutôt par l'actuel Afghanistan, donc dans ce grand empire couchant. C'est la route que décrit le géographe Ptolémée. On voit très bien par où ça passe. Ça passe par le nord de l'Afghanistan, puis les Pamirs. Et cette route du sud est éclipsée, peu à peu, et à partir du 2e, 3e siècle, par une route plus septentrionale que viennent à contrôler les marchands de Samarcande. C'est le moment où Samarcande s'impose comme un nœud essentiel des voies transcontinentales. Samarcande est une ville ancienne, elle remonte à l'époque de l'Empire perse, Alexandre l'a conquise, elle est connue par les historiens d'Alexandre sous le nom de Marakanda, j'y ai mené des fouilles depuis une trentaine d'années, mais on voit très bien que la Samarcande antique est avant tout une base militaire, c'est un poste défensif face au monde de la steppe. Et à partir du 2e, 3e siècle, ça change. Les marchands de Samarcande s'imposent progressivement sur toutes les étapes de la route de la soie, branche orientale d'abord allant jusqu'à la Chine, mais on retrouve aussi leurs inscriptions dans les passes qui conduisent à l'Inde du Nord, et au VIe siècle, ils vont se manifester à Byzance, en passant par les steppes au nord de la mer Noire.
Donc une civilisation très brillante et capable de rayonner en termes au moins commerciaux.
Alors, c'était pas forcément très brillant en métropole. On sait très bien que les empires un empire commercial prospère n'est pas forcément la preuve d'une grande prospérité à domicile. Il peut y avoir parfois des phénomènes de transfert, de compensation. Alors, on a fort heureusement un ouvrage de référence maintenant sur le commerce sogdien, c'est le très grand livre d'Étienne de la Vessière, directeur d'études à l'EHESS, Histoire des marchands sogdiens, qui est périodiquement réédité.
On le trouvera naturellement sur notre site.
Alors, on voit très bien que là, on a tout de même beaucoup de documents qui nous éclairent sur ce commerce sogdien, des documents, des mentions dans les textes chinois, très abondante, certaines mentions chez les écrivains byzantins, puisqu'encore une fois, ils se sont à un moment manifestés à Byzance, et puis des documents, je dirais, endogènes, produits en langue sogdienne, qui est une langue iranienne.
Vous parlez bien
par
le sogdien?
Communauté. Je ne peux pas dire que je le parle, mais je le lis. Le sogdien la connaissance du sogdien tend à se démocratiser. Il y a de plus en plus de jeunes chercheurs qui s'y mettent. C'est une langue qui s'est éteinte, disons, à partir du XIe siècle.
D'ailleurs, c'est une civilisation qu'on connaissait mal il y a deux siècles, qui est apparue dans l'attention des chercheurs assez récemment, dans son importance pleine.
Elle commence, on a identifié vraiment le facteur sogdien à partir du moment où les fouilles archéologiques conduites sur le territoire soviétique ont permis de mieux connaître cette civilisation.
C'est-à-dire en fait depuis...
Dans l'après-guerre. Alors, on voit que cette réalité sogdienne, elle est multiforme. On a des manifestations très brillantes, très flamboyantes. On a aussi parfois une réalité assez misérable et sordide. Les historiens disposent, par une chance extraordinaire, d'un paquet de courriers retrouvés par le grand explorateur Orelstein au début du XXe siècle dans une tour frontière à l'ouest de Dunhuang.
Et dont il s'est emparé naturellement, comme on pratiquait à l'époque.
Voilà. Et ce paquet postal, il n'était pas le premier à s'en être emparé. Il avait été vraisemblablement confisqué par la douane chinoise parce que ces lettres contenaient des nouvelles sur les troubles qui affectaient à cette époque la Chine du Nord, et les autorités chinoises ne tenaient pas à ce que ça se diffuse.
Elles sont au British Museum aujourd'hui ?
Elles sont au British Museum, elles continuent à faire l'objet d'éditions de plus en plus améliorées.
Et qu'est-ce qu'elles enseignent ?
Elles nous montrent une phase où on voit que ces communautés sont bien enracinées, on nous parle dans une lettre de 100 personnes de familles distinguées qui vivent dans un endroit, dans une ville particulière. Mais en même temps, c'est une phase difficile parce que les lignes de communication avec les capitales de la Chine du Nord sont rompues par des troubles civils qui vont déboucher sur les invasions barbares de la Chine.
Ça, c'est une constante, ça revient régulièrement.
Ça revient régulièrement.
Récurrente depuis deux millénaires.
On se retrouve donc avec des communautés atomisées et même des structures familiales en désintégration. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de lire deux lettres qu'une femme délaissée par son mari, et qui habitait à Dunhuang, a adressées, l'une à son mari et l'autre à sa mère. On date maintenant très bien ces documents de 313 après Jésus-Christ. Je lis d'abord la lettre au mari. « Au noble seigneur Nanaizat, mon mari, bénédiction et hommage à genoux tel qu'on en offre aux dieux. Mais vois donc, je vis malheureuse, pas bien, misérablement, et je me considère moi-même comme morte. Bien des fois je t'ai envoyé des lettres, mais de toi je n'en ai pas reçu une seule. »
Elle est vraiment délaissée.
Oui. « Et j'ai perdu tout espoir en toi. Je demeure à Dunhuang depuis 3 ans pour votre honneur. Une fois, deux fois, jusqu'à 5 fois, il y a eu une occasion d'en partir. Mais votre honneur a refusé de me faire sortir. Obéissant respectueusement à tes ordres, je suis venu à Dunhuang, sans suivre les ordres de ma mère et de mes frères. Sûrement les dieux étaient fâchés contre moi le jour où j'ai suivi ton ordre. J'aimerais mieux être la femme d'un chien ou d'un porc que la tienne. » Par ailleurs, elle écrit à sa mère.
C'est impressionnant, oui.
De sa fille, la femme libre Meunai, à sa chère mère Chatis, bénédiction et hommage. Je vis misérablement, sans habit, sans argent. Je demande un prêt, mais personne ne veut m'en consentir. Alors je dépends de la charité du prêtre. Il m'a dit, si tu pars, je te donnerai un chameau, et il faudra qu'un homme aille avec toi. Quand tu seras en chemin, je veillerai à ce que tout se passe bien. Et ce qui est pathétique, c'est que cette lettre n'est jamais arrivée à ses destinataires, puisqu'elle a été confisquée par la douane avant de réapparaître dans les fouilles d'Orelstein.
Ces documents montrent bien que s'entremêlent toujours des malheurs individuels et des prospérités collectives.
Alors les prospérités collectives et individuelles, nous les connaissons aussi, et l'information sur elles s'est considérablement enrichie depuis une vingtaine d'années par la découverte d'une série tout à fait extraordinaire de documents archéologiques, c'est la série des tombes ornées à la chinoise qu'avait commandité tout un groupe d'anciens marchands devenus chefs responsables locaux de leur communauté.
Toujours Samarcande.
Originaire de Samarcande et des principautés voisines, mais ces tombes ont été trouvées en Chine du Nord, et notamment à Xi'an, la capitale. Alors là, on les voit, ils font étalage de leur grandeur sur les reliefs et les peintures qui ornent leurs sarcophages. On les voit dans les caravanes, mais finalement pas tellement.
Voilà ce qui scande absolument la route de la soie dont nous parlons ce matin.
Ils se montrent surtout à la chasse et ils se montrent dans des activités diplomatiques au contact de peuples nomades. Et ça rappelle beaucoup ce que dira plus tard Marco Polo sur ses propres aventures. Marco Polo, certes, ne manque pas de mentionner que dans telle province, le commerce est prospère, on peut faire des affaires. Mais il ne parle jamais des affaires qu'il a conclues. Le rôle dans lequel il se met en scène, c'est le rôle d'un homme de confiance, d'un diplomate, d'un gentilhomme. On a l'impression que ses activités marchandes, qui soutiennent bien entendu la carrière et la prospérité de ces gens, que ce soit les Sogdiens du VIe siècle ou Marco Polo, on évite de trop les afficher.
Mais est-ce que ce n'est pas très, très contemporain?
Tout à fait. C'est ce que feront plus tard les marchands florentins.
Et aujourd'hui?
Et aujourd'hui.
Il n'empêche que la prospérité marchande du royaume de Samarcande frappe beaucoup les Chinois, puisque je vois que dans une chronique du 7e siècle, on peut lire ceci. Les gens du royaume de Samarcande, sont tous d'habiles commerçants. Quand les femmes ont accouché d'un enfant, écoutez bien, elles lui donnent à manger du sucre candi et lui mettent de la colle sur la paume de la main, dans le désir que lorsqu'il sera grand, il ait des paroles douces et tienne les objets précieux comme s'ils étaient adhérents. Quand un garçon atteint l'âge de 5 ans, on le met à l'étude des livres. Quand il commence à les comprendre, on l'envoie étudier le commerce. Dès qu'un homme a 20 ans, il s'en va dans les royaumes voisins. Partout où on peut faire du profit, ils sont allés. Les gens de ces diverses principautés aiment le vin. Ils se plaisent à chanter et à danser sur les routes. Le roi a un bonnet de feutre qui l'orne d'or et de divers joyaux. C'est vous qui citez ce texte dans un article sur Samarcande et la route de la soie, un article de l'Histoire de 1985. Il y a là une domination néanmoins du souci du commerce, des échanges.
Tout à fait. Et le regard chinois est intéressant, car la culture chinoise ne valorise pas le commerce à cette époque. Donc ça paraît véritablement l'exotisme absolu et en même temps une activité que les Chinois ne vont pas condescendre à exercer eux-mêmes, mais qui leur est utile.
Alors l'époque suivante, c'est celle d'un repli, de la fin du réseau sogdien avec l'invasion du pays, notamment par les troupes musulmanes. Et puis un rebond, vous évoquiez Marco Polo il y a un instant, Franz Grenet, le moment ultérieur à l'époque mongole. Expliquez-nous ça.
Alors au 8e siècle, effectivement, ce réseau se tend à se désintégrer parce que la Sogdiane est progressivement annexée par la conquête arabe. Ça ne veut pas dire du tout que les marchands sogdiens disparaissent, mais ils s'islamisent et à partir de là, ils vont réorienter leurs activités vers l'ouest. Ils seront nombreux à Bagdad. Mais les lignes de communication avec la Chine se rompent peu à peu. Et puis par ailleurs, au milieu du 8e siècle, la Chine est saisie d'une de ces réactions de xénophobie violente qui ont à plusieurs reprises scandé son histoire. C'est consécutif d'ailleurs à une tentative de prise du pouvoir en Chine par un Sogdien, Han Lushan. J'aime bien traduire son nom, Lucien Bokhara, parce que Han, ça veut dire Bukhara en chinois, et Lushan, c'est Roshan, la lumière. Et il a tenté, il s'est proclamé empereur en s'appuyant sur les réseaux marchands sogdiens. La répression, ça a entraîné la Chine des Tang dans une guerre civile où elle a failli sombrer.
Donc moment désastreux pour la Sogdiane.
Perdu les colonies occidentales.
Aussi.
Et en contrepartie, alors en réaction, on a des textes sur des pogroms qui à ce moment-là sévissent en Chine du Nord. Tout personnage ayant un nez un peu allongé, parce que c'était le stéréotype physique sogdien aux yeux des Chinois,
on dit les
était massacré.
Était massacré, on dit les barbares au long nez.
Voilà. Je crois que le phénotype sogdien a continué à influencer les descriptions que les Chinois ont données des Occidentaux jusqu'à une période très tardive. Alors, donc, à partir de là, le commerce avec l'Occident ne disparaît pas, mais il tend à se réorienter vers les routes maritimes.
Comme aujourd'hui, il y a la route maritime et la route terrestre.
Alors, ce commerce terrestre va renaître à la faveur de l'unité créée par l'Empire mongol. Pendant deux générations, l'Empire mongol est unifié.
On est à quelle période?
Alors, on est, disons, les grandes conquêtes, c'est entre 1220 et 1240. La conquête de la Chine du Sud est achevée vers 1270. Grand personnage mongol de l'époque, c'est évidemment, c'est Kubilai Khan, le grand Khan.
Mais dès 1220, Genghis Khan s'était emparé de Samarcande.
Oui, alors, il s'en était emparé. Et alors, ce qui est intéressant à constater, c'est que, bien entendu, les conséquences immédiates ont été effroyables. C'est un véritable génocide qui a été commis tant en Asie centrale qu'en Iran. Mais au départ, les motivations de Genghis Khan sont favorables au commerce. Il attaque l'Empire musulman d'Asie centrale parce qu'on n'a pas laissé entrer ses caravanes. Il souhaitait établir des relations commerciales. Et c'est en réaction contre le massacre d'une de ses caravanes qu'il a lancé sa terrible campagne. Alors, pendant, disons, 2-3 générations, l'Empire est unifié, le centre politique de l'Empire se transfère en Chine, avec le personnage extraordinaire de Kubilai Khan, que Marco Polo a connu, et peut-on dire même connu intimement. Les routes se rouvrent, elles sont d'abord parcourues par des missionnaires. Alors, il faut rappeler que là aussi, on est dans la longue durée, les routes de l'Asie centrale ont vu passer des missionnaires de beaucoup de religions. Avant les missionnaires chrétiens, il y a eu les bouddhistes, à partir du 1er siècle de notre ère, qui ont introduit le bouddhisme en Chine.
Les nestoriens qui sont
Les nestoriens qui sont déjà des chrétiens, mais venus de Perse. Les manichéens, les derniers manichéens, ça n'était pas, contrairement à ce que nous dit une certaine historiographie romantique, les cathares du sud de la France, qui n'avaient rien à voir avec les manichéens. C'était des communautés manichéennes qui ont existé en Chine du Sud jusqu'au XVIIe siècle et que Marco Polo a d'ailleurs rencontré.
Alors Marco Polo, il faut y venir maintenant, ce Marco Polo. Je vais vous faire entendre sa voix, ou plutôt un extrait de son fameux ouvrage, Le Devisement du Monde, qu'on appelle aussi le Livre des Merveilles. Et puis après, vous nous le replacerez dans la continuité de cette histoire de la route de la soie que nous esquissons ce matin. Franz Grenet, c'est un texte qui est lu dans l'émission Documentaire d'été d'André Velter sur France Culture le 27 août 1988.
Dans ce désert habitent nombre d'esprits qui produisent aux voyageurs de grandes et surprenantes illusions pour les faire périr. Parfois dans la nuit, on entend comme une ruée de monde en autre direction et croyant que ce sont les compagnons. Les gens vont où ils entendent la marche de la cavalcade et lorsque le jour vient, ils se trouvent ravis par ces esprits en cette voie ou une autre. Et beaucoup n'étant point avertis de ces esprits périssent de mal mort. Et c'est parfois de jour que les esprits viennent sous la forme d'une troupe vers celui qui est resté en arrière. Alors il sort de la route, les esprits le laissent tout seul marcher dans le désert, et il périt. Et on a vu pour qui, lorsque voyageaient, les esprits ont pris la forme d'une armée et les ont chargés d'assaut. Eux, pensant que ce fussent voleurs, se prirent à fuir, et ayant quitté la bonne route, ne surent plus la retrouver, et périrent donc misérablement de faim, car ils s'étendent à l'infini. Ainsi, ceux qui ne s'en gardent pas bien de ces déceptions parviennent à une fin misérable. Ce sont choses merveilleuses à ouïr et difficiles à croire, ce que font ces esprits. Et pourtant c'est comme vous ai dit, et encore bien plus surprenant. Aussi les gens sont accoutumés à marcher bien serrés en groupe, et avant de se coucher, ils font une marque de la direction qu'ils doivent reprendre. Voilà la manière dont se passe ce désert avec autant de périls, de troubles et de craintes que vous avez ouïes.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il me semble, Franz Grenet, qu'à entendre ce passage, on comprend mieux pourquoi ce mélange de fantasmagorie et de récits concrets a pu donner un tel best-seller en Occident. Et c'est un succès.
Ça n'est que partiellement fantasmagorique. C'est vraiment un témoignage vécu.
Les esprits ont existé?
Les esprits, non. Mais les mirages visuels et auditifs, oui, ils sont relatés par les voyageurs ultérieurs. Il y avait des impressions auditives qui étaient créées par le vent caressant les dunes, qui donnait l'impression d'une troupe en mouvement. Alors, certaines notations de Marco Polo sont tout à fait remarquables de précision. Quand il traverse le Pamir, il explique que la viande cuit mal parce que le feu ne brûle pas bien. Observation remarquable sur les conséquences de l'altitude. Alors, Marco a eu un certain moment, disons, il y a une vingtaine d'années, assez mauvaise presse dans la littérature savante occidentale parce que on a mis en cause la véracité de son témoignage, avec des arguments qui, en fait, ont été depuis démontés. Certes, il y a des exagérations dans le récit de Marco, mais il faut tenir compte d'un certain nombre de choses quand on parle de Marco Polo.
D'abord, rappelez-nous quelle est son histoire,
Venise. Il vient de Venise, il est membre d'une famille de commerçants. Au départ, c'est son père et son oncle qui sont partis pour des expéditions marchandes en mer Noire. Et puis, pour des raisons un peu obscures, ont finalement décidé de continuer vers l'Est. Ils reviennent, là-dessus, coup de chance extraordinaire, ils rencontrent à Saint-Jean-d'Acre celui qui vient d'être élu pape et qui va leur donner, ils n'ont jamais été véritablement ambassadeurs, mais enfin, ils étaient porteurs d'une lettre pour le grand khan qu'ils avaient rencontré. Donc, on voit très bien que dès ce moment-là, le commerce se cachent derrière la diplomatie dans leurs activités. Et revenus à Venise, ils emmènent le neveu Marco qui a 15 ans et avec lequel ils vont vivre 17 ans en Chine, après quoi ils réussiront tous à rentrer à Venise. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que leur aventure n'est pas unique. On sait par l'archéologie, des pierres tombales retrouvées en Chine du Sud, qu'ils étaient loin d'être les seuls Italiens habitantes en Chine à cette époque. Mais ce qui leur donne un caractère unique, c'est que, d'une part, Marco a visiblement été un intime du grand khan, ce que les autres n'étaient pas. Et par ailleurs, il a laissé un récit, ce qu'il n'aurait jamais fait s'il ne s'était pas retrouvé plus tard en prison avec un écrivain professionnel. Pour tromper son ennui, et puis l'écrivain Rusticello avait le nez très creux. Il a compris qu'avec le récit de Marco, il pouvait effectivement faire un best-seller. Ce qu'il a fait, ce qui rend en même temps le récit parfois difficile à utiliser, parce que c'est une coécriture entre un témoin et un romancier.
Néanmoins, vous dites que contrairement à des doutes qui s'étaient répandus il y a quelques décennies, on peut faire fond pour l'essentiel sur le
récit. On a la preuve absolue maintenant que Marco était en Chine. Cette preuve, c'est tout simplement un document officiel qui nous parle du départ du bateau qui va ramener Marco en Perse pour convoyer une princesse mongole que demande le neveu du grand khan. Il se trouve que Marco cite trois officiers mongols qui commandaient le bateau.
Le grand khan, c'est le souverain mongol.
Kubilai Khan. Marco cite trois officiers mongols qui commandaient le bateau. Et on a un document officiel qui mentionne ces trois officiers à cette date dans ce port. Il n'y a plus aucun doute permis sur la véracité du récit. Ceci dit, Marco, parfois, ou son co-écrivain, a parfois tendance à exagérer. Il monte beaucoup en épingle son rôle de conseiller, presque d'homme d'État. J'ai ma petite idée là-dessus. Moi, je pense qu'il essayait de négocier l'entrée de sa famille au Grand Conseil de Venise. Et que, par conséquent, il voulait se présenté comme quelqu'un qui avait eu des responsabilités très importantes dans un grand empire.
Cette hablerie avait des finalités politiques.
Voilà, des responsabilités, il en a eu, mais elles sont plutôt de l'ordre du service de renseignement. Il est un de ces nombreux hommes de confiance qu'utilise le grand khan pour espionner sa propre administration.
Mais ça, c'est une constante de tous les siècles que nous parcourons rapidement ce matin avec la route de la soie, c'est-à-dire le mélange entre les préoccupations religieuses, économiques et éventuellement quasiment policières.
Tout à fait. L'Empire chinois, comme beaucoup de grands empires d'ailleurs, s'est souvent, à plusieurs reprises, appuyé sur des éléments étrangers qui étaient chargés de doubler et d'espionner la hiérarchie mandarinale.
Un autre aspect intéressant, c'est le souci qu'ont les Chinois et les autres d'assurer un minimum de sécurité dans ces échanges, parce que constamment, de siècle en siècle, la menace a été celle des fièvres, des brigands, des attaques de toutes sortes, des vols et des pirateries. Écoutez cet extrait d'un autre voyageur, Ibn Battuta. Il est séparé par deux générations de Marco Polo, dont il peut connaître les successeurs, qui est lu ici par Mostifa Stiti dans l'émission Roue Libre sur France Culture, le 9 juin 1982. La sécurité qui est assurée.
Du soin qu'ils prennent des voyageurs sur les routes. La Chine est la plus sûre ainsi que la meilleure de toutes les régions de la Terre pour celui qui voyage. On peut parcourir tout seul l'espace de 9 mois de marche sans avoir rien à craindre, même si l'on est chargé de trésors. C'est que dans chaque station, il y a une hôtellerie surveillée par un officier qui est établi dans la localité avec une troupe de cavaliers et de fantassins. Tous les soirs, après le coucher du soleil ou après la nuit close, l'officier entre dans l'auberge accompagné de son secrétaire. Il écrit le nom de tous les étrangers qui doivent y passer la nuit, en cache la liste, et puis ferme sur eux la porte de l'hôtellerie. Au matin, il y retourne avec son secrétaire, il appelle tout le monde par son nom et en écrit une note détaillée. Il expédie avec les voyageurs une personne chargée de les conduire à la station qui vient après, et de lui rapporter une lettre de l'officier préposé à cette seconde station, établissant que tous y sont arrivés, sans cela la dite personne en est responsable. C'est ainsi que l'on en use dans toutes les stations de ce pays, depuis Sinassin jusqu'à Khan Balik. Dans ces auberges, le voyageur trouve tout ce dont il a besoin en fait de provisions. Il y a surtout des poules et des oies. Quant aux moutons, ils sont rares en Chine.
Franz Grenet, ce texte montre un moment de pacification et d'efficacité qui va, comme les autres, être provisoire.
Le témoignage d'Ibn Battuta se rapporte encore à l'époque où les Mongols sont les maîtres de la Chine et donc où leur administration fonctionne. Ceci dit, tout cela, ça va finir par se déliter puisque, à partir des années 1360, les Mongols sont chassés de Chine par la nouvelle dynastie des Ming. On a dit, avec les Ming, un isolationnisme, une fermeture. Oui, ça ne s'est établi quand même que progressivement.
Mais ça a été marqué, il reste au pouvoir jusqu'au mi-temps du XVIIe siècle.
Voilà, mais alors la fermeture s'est plutôt produite un siècle après, puisque au début des Ming, il y a encore les grandes expéditions maritimes lancées sur toutes les routes de l'océan Indien.
Mais est-ce que la peste noire
C'est probablement un facteur très important. La peste noire est d'abord apparue en Chine avant d'arriver en Occident. Elle apparaît en Chine en 1334, en Occident seulement quelques années plus tard.
1349, 48,
nous savons par les pierres tombales de ces familles italiennes qui étaient établies dans les ports de la Chine du Sud qu'il y a eu une très forte mortalité à ce moment-là. En fait, ces colonies marchandes étrangères ont dû être pratiquement anéanti. Et puis, d'autres facteurs expliquent évidemment ensuite le délaissement de cette route terrestre.
Lesquels ?
La circumnavigation de l'Afrique par les Portugais, avec Vasco de Gama à la fin du XVe siècle. Puis la découverte du Nouveau Monde, qui va réorienter en partie les circuits commerciaux.
La route maritime vient en quelque sorte remplacer dans une large mesure la route terrestre.
Tout à fait. Alors la route terrestre ne va jamais disparaître, véritablement. Mais elle n'a plus la vigueur qu'elle a pu avoir dans les siècles précédents. Le niveau économique et culturel de ces anciennes oasis, de ce qui est aujourd'hui le Xinjiang, les provinces occidentales de la Chine, décline. Et lorsque les premiers explorateurs, archéologues, agents de renseignement occidentaux vont redécouvrir ces régions, à partir des dernières années du XIXe siècle, le tableau qu'ils dresseront de la situation contemporaine est assez misérable. Mais, ils vont redécouvrir, ils vont redonner vie à ces témoignages anciens sur la route de la soie, puisqu'ils vont en redécouvrir les vestiges dans les sables, souvent magnifiquement bien préservés. Ce sont des conditions de préservation, notamment des matériaux organiques, que nous ne rencontrons pas sur nos propres fouilles de l'Asie centrale occidentale.
Là, vous vous situez dans quelle période ils vont redécouvrir ?
À partir, les grandes explorations archéologiques sont lancées dans un climat de concurrence acharnée entre Russes et Allemands, c'est les premiers présents sur le terrain, puis Britanniques, Français, Japonais.
À quel moment ?
Dans les dernières années du 19e siècle, et ça va continuer environ jusque dans les années 1920. À partir de cette époque, la Chine va se fermer aux explorateurs étrangers dans le contexte nationaliste du Kuomintang.
Donc on peut dire, il n'est pas indu de dire que le dernier ou l'avant-dernier moment de la route de la soie s'explique pour des motifs scientifiques. Le ressort de la recherche scientifique devient important, mais c'est aussi politique.
C'est une partie de ce qu'on a appelé le grand jeu. C'est la concurrence que se livrent principalement les Russes et les Britanniques.
En Afghanistan notamment.
Dans toutes ces zones aux frontières incertaines, c'est cette concurrence, l'apaisement de cette concurrence, qui aurait pu tout à fait déboucher sur un conflit ouvert, qui va entraîner la naissance de l'Afghanistan indépendant. L'Afghanistan a été créé pour que, d'un commun accord entre les Russes et les Anglais, pour qu'il n'y ait pas de frontières communes. Alors, dans ces conditions, ces explorateurs qui sont, pour certains, des archéologues et des philologues bien formés, comme Orelstein et Paul Pelliot,
Orelstein et Paul Pelliot,
compatriotes, pour d'autres, la finalité est tout de même surtout la recherche de trésors pour les musées occidentaux. L'expédition allemande comportait un grand historien d'art qui était Grünwedel, lequel d'ailleurs, contrairement à ses collaborateurs, ne voulait pas qu'on enlève les œuvres de leur site.
C'est là qu'on revient à Dan Wang et...
Et alors, voilà, l'un des épisodes phares de cette aventure, c'est la découverte de la grotte aux manuscrits, que j'appelle le Capharnaüm aux manuscrits de Dan Wang par Orelstein, qui découvre qu'une pièce de ce monastère bouddhique est totalement remplie de manuscrits qui ont été cachés là au tout début du XIe siècle. Et qui sont écrits dans toutes les langues de l'Asie centrale à cette époque, y compris des langues qui étaient alors inconnues. Après, sur Orelstein fait une riche moisson, mais pas très sélective, parce que il ne lisait en fait que le sanskrit et je crois le tibétain. Mais sur ces brisés arrive notre compatriote Paul Pelliot.
Il faut dire, je vous interromps, il faut dire que l'école des sinologues français a été brillante à la fin du 19e siècle. Paul Pelliot est l'élève d'Édouard Chavin, dont on redécouvre aujourd'hui l'importance, n'est-ce pas?
La redécouverte de l'Asie centrale par le biais des sources chinoises est surtout due à l'école française.
Édouard Chavin, votre collègue du Collège de France.
Abel Rémusat, Stanislas Julien, qui a le premier traduit l'extraordinaire récit dont on aurait pu parler, mais on ne pouvait pas parler de tout, du pèlerin bouddhiste Xuan Zang, qui a parcouru l'Asie centrale à la recherche de manuscrits bouddhiques au 7e siècle. Puis Édouard Chavin, dont l'élève Paul Pelliot arrive sur les brisées d'Orelstein, arrive aussi dans la grotte des manuscrits, en quantité. Sa moisson de manuscrits est plus maigre que celle de Stein. En qualité, elle est considérablement supérieure, parce que Pelliot, lui, arrive à déchiffrer une partie des textes. Et donc, il fait un choix extrêmement raisonné. Aujourd'hui encore, le fond de manuscrits ramené de Dan Wang par Pelliot et déposé à la Bibliothèque nationale est une référence absolue.
Et le président chinois actuel, Xi Jinping, ne marque pas son désir de récupérer toutes ces richesses, contrairement à d'autres puissances.
À certains moments, il y a eu des revendications chinoises. En ce qui concerne les manuscrits, ça s'est considérablement calmé grâce à une très heureuse initiative qui a été la bibliothèque digitale de Dan Wang.
La numérisation.
Tout a été numérisé et mis en ligne. Voilà, donc
on a essayé de faire la même chose pour les manuscrits coréens à la Bibliothèque nationale de France, mais ça n'a pas suffi. On les a rendus.
Mais pour les manuscrits chinois, il semble qu'actuellement ça a suffi. Ceci dit, il reste un lourd ressentiment concernant les peintures murales qui ont été décollées des murs. Je visitais les sites de Tourfan au mois de mai. On a des écriteaux volés.
La route de la soie a donc servi aussi à ce genre de larcin aux yeux des Chinois. Nous allons terminer sur un dernier moment de symbolique de cette route de la soie avec la fameuse croisière jaune d'avril 31 à février 32 à l'initiative d'André Citroën. On a envoyé des voitures Citroën à chenilles pour aller de Beyrouth à Pékin. Écoutez cet extrait un peu grandiloquent d'un film de l'époque, un film de 1934, un film d'André Sauvage, La Croisière Jaune.
Une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin à travers la mystérieuse Asie centrale et reviendra vers la France par l'Indochine, le Siam, les Indes, la Perse. Ce sera l'expédition Citroën Centre-Asie, troisième mission Arthaud-Douin-Dubreuil, la croisière jaune. Tous présents, sauf celui dont le nom était dans toutes les pensées et à qui Art eut l'idée d'envoyer un message vivant.
Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous? Chez nous aussi. Vous me regardez? Je suis en costume gobie. Car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde.
Tientsin, Kalgan, la Mongolie, le désert de Gobi, le Xinjiang.
Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën. Mais vous êtes si loin de nous, et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre, que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932, et parmi ceux-ci, celui de nous trouver ensemble avec vous, au bout de ce prodigieux voyage que vous animez. À bientôt, mon cher Citroën.
Tonalité d'époque, je vous voyais sourire, Franz Grenet.
Il ne faut pas sous-estimer la croisière jaune en tant qu'exploit sportif et mécanique. La finalité principale était de mettre au point des véhicules à chenilles dans des conditions extrêmes.
Plus la publicité, comme on dirait.
Plus la publicité, la communication en temps réel. Bien. Les retombées scientifiques n'ont pas été très fortes. Bien, malgré la présence de grands savants, Teilhard de Chardin faisait partie de la croisière jaune, Joseph Aquin, directeur du musée Guimet et directeur de la mission archéologique française en Afghanistan, en faisait partie aussi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ils sont arrivés dans la Chine du Kuomintang où on réagissait très fortement contre ce qu'on considérait et qu'on considère toujours en Chine, les voleurs de la période précédente.
Le sac du palais d'été.
Et pas seulement, le prélèvement des peintures murales et des manuscrits. Donc, ils n'ont en fait pas pu faire grand-chose.
Eh bien, c'est avec la croisière jaune, Franz Grenet, que nous allons quitter cette route de la soie sur laquelle vous nous avez conduit ce matin. Je vous en sais gré. Je voudrais renvoyer à votre leçon inaugurale au Collège de France, en 2013, qui est parue chez Fayard, dans la jolie collection des leçons inaugurales, et en ligne. On vient de rééditer aux éditions Philippe Piquier l'ouvrage de Peter Hopkirk, Bouddhas et rôdeurs sur la route de la soie. C'est un livre utile ?
Tout à fait, c'est un excellent récit de ces grandes expéditions, donc de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
Et puis enfin, vous nous dites que c'est le meilleur ouvrage sur Marco Polo, tout récent, de Thomas Tanase, une biographie de celui-ci parue aux éditions Ellipse. Citons également, vous aurez d'autres éléments bibliographiques naturellement sur notre site, citons également Luce Boulnois a donné un livre qui s'appelle La route de la soie, Dieu, guerriers et marchands, aux éditions suisses Olizane en 2001. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, retrouver, vous le savez, les éléments sonores que nous avons utilisés, les archives sur notre site, et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission en la conservant pour l'éternité, ou au moins aussi longtemps qu'a existé la route de la soie. Samedi prochain, nous parlerons des Tchèques et des Slovaques aux sources d'un nationalisme. Vous voyez que surgissent actuellement des élections, notamment à Prague, qui peuvent marquer un infléchissement digne d'intérêt, peut-être d'inquiétude. Et je recevrai le grand spécialiste qui est le professeur Antoine Marès.
De Pantin à Pékin, ça fait loin, si loin que jamais, je le crains bien. Je n'irai de Pantin à Pékin, à moins d'accidents dans mon destin.
C'était sur fond de Juliette Gréco, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Nathalie Lempereur et aussi Jeanne Guéroux, réalisée par Anne Kobilac, avec Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana.
Les Chinois ont de tout petits pieds. Il paraît que les Chinois ont les cheveux nattés, que là-bas les paysans portent des robes bleues.
Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.
De Pantin à Pékin, ça fait loin, si loin que jamais, je le crains bien. Je n'irai de Pantin à Pékin, à moins d'accidents dans mon destin. Une mandarine, une tasse de thé, et voici la Chine qui dort à mes pieds. Mais bientôt le matin de Pantin reviens me chercher jusqu'à Pékin. Je vous vois déjà qui m'a câblé de colibets. Pourquoi les Chinois